Donc, je pense que c'est bon de la loi que le hanzom de la doctrine originelle, l'estrade des préceptes de la doctrine originelle et le daimoku de la doctrine originelle, donc les trois grandes lois ésotériques, sont telles qu'elles incluses dans Nam-myoho Renge Kyo, qui est la substance de la loi du passé infini. Toutes les écoles bouddhiques, quelles qu'elles soient, ont trois sciences qui constituent l'armature de leur pensée. La première science, c'est la science des préceptes. La seconde science, c'est la science de la concentration. Et la troisième science, c'est la science de la sagesse. Alors, selon les écoles, il y aura certains préceptes, certaines concentrations, certaines sagesses. Il est dit que, quand tu as reçu les préceptes, quoi, avant de recevoir le don, quand tu reçois les préceptes de notre école, en fait, tu abandonnes toutes les vues autres que celles du Bouddha originel. C'est ça, le précepte. Et il est dit que, lorsqu'on reçoit le précepte, à ce moment-là, la concentration peut se produire, qui est la deuxième science, parce que l'esprit est apaisé. Donc, dans notre école, le fait de recevoir les préceptes, c'est l'estrade des préceptes, au Japon. C'est l'estrade des préceptes, c'est la personne qui garde le Daigonzon. Donc, c'est le corps du souverain de la loi. Autrement dit, lire les écrits du souverain de la loi, essayer de les appliquer en les comprenant, ou en les vivant, permet de respecter les préceptes. Ensuite, pour la science de la concentration. Comme l'esprit est instantané, la concentration n'existe pas en tant que telle. Ce n'est pas possible de concentrer un esprit, que ce soit sur le vide, sur un objet, ou sur ce que vous voulez. Comme exister, c'est l'instantanéité des choses et des êtres, il n'y a pas de possibilité de concentrer un esprit, de le prendre et de le concentrer. C'est faux, ça n'existe pas. Donc dans notre école, la concentration, ce n'est pas la concentration de l'esprit, c'est l'objet, c'est-à-dire c'est le onzon sur lequel l'esprit revient, qui est la concentration. Et en ce qui concerne la science de la sagesse, qui est ce qui découle naturellement du respect des préceptes et de la concentration, la sagesse, le Bouddha, il s'est bien rendu compte qu'il avait affaire à des abrutis au Japon au XIIIe siècle. Hein. Donc il s'est dit, si j'attends que les êtres humains larguent leurs bêtises, fassent apparaître leur sagesse pour leur renseigner quelque chose, ça va prendre 2-3 000 ans, j'ai pas le temps. Donc, Nichiren laisse Nam-myoho Renge Kyo, qui est sa propre sagesse à lui, qui est son état de vie intérieure. Donc chez nous, les préceptes, c'est aller au Japon et suivre l'enseignement du souverain de la loi. C'est réciter Daimoku devant le Hanzon, qui est la concentration. Et c'est réciter donc Nam-myoho Renge Kyo, qui est la sagesse du Bouddha. Autrement dit, dans une situation où, à la base, la pensée vient du corps à chaque instant en tant que effet, grâce à la foi, au fait de croire, on récite Nam-myoho Renge Kyo, ce qui fait que la sagesse du Bouddha apparaît telle qu'elle en tant qu'effet, au milieu de nos troubles tels que l'on est.
Et
oui.
L'estrade des préceptes, c'est ça que le Sangha garde.
En premier.
En premier.
Par orgueil.
Absolument.
Bah oui. Bah oui. Tout de suite. Oui. Tout de suite. Ouais. Après, ils ont changé les prières silencieuses, et après, ils ont dit, on fait un bon dialogue plus court, et tout ça, bien sûr. Mais la première chose qu'ils ont visée, c'est l'autorité de l'estrade des préceptes. En disant, moi, je vois bien un japonais qui mesure 25 ans. Ben voilà, bien sûr, tout de suite. Bien sûr. Bien sûr. Comprenez. Hein? Gojukai, bien sûr, aussi, certainement, il saute. Mais comprenez. Le Hanzon est un objet invariable. Quel que soit le grand patriarche qui est inscrit, ça change de forme, mais l'objet est invariable devant nos yeux. Nam-myoho Renge Kyo est invariable. Donc, en somme, nous avons deux invariables. Nam-myoho Renge Kyo, récité par tous les êtres du monde qui pratiquent de la même manière. Le Hanzon devant lequel tous les êtres du monde qui pratiquent sont devant, donc ça fait deux invariables.
Oui.
La troisième chose invariable, c'est quoi? C'est l'esprit de la personne qui pratique. Quelle différence entre la personne complètement conne qui récite Nam-myoho Renge Kyo devant le Hanzon et le Bouddha originel qui récite Nam-myoho Renge Kyo aussi devant le Hanzon? Hein? Bon. Quelle différence il y a? C'est l'esprit de l'être. Il y en a un qui est l'esprit agité par ses angoisses, ses troubles et son orgueil, et l'autre, l'esprit, c'est celui du Bouddha originel. Donc, s'il y a Mais il y a deux invariables et une variable qui est l'esprit, une pensée de la personne. C'est la seule chose variable. C'est la raison pour laquelle l'estrade des préceptes est là pour guider cette partie variable qui est l'esprit de la personne. Donc quand on suit l'enseignement du souverain de la loi et qu'on essaie de comprendre son enseignement et de le mettre en pratique, notre esprit devient, se moule dans l'esprit du souverain de la loi et ainsi la troisième invariable est constituée. Donc une invariable, l'onzon, une invariable, l'amniro, l'ingekyo, et l'esprit de la personne qui est variable, il est canalisé par l'enseignement du souverain de la loi qui est l'estrade des préceptes. C'est cool comme ça, vous voyez ce que je veux dire? D'où l'intérêt d'étudier un chouille des enseignements du souverain de la loi. Donc, Nichiren dit, à propos du sutra du lotus, qui est l'enseignement de base, bien sûr, pour notre école, il dit qu'au profond des phrases est la loi merveilleuse au degré de dénomination lors de l'éveil véritable dans le passé lointain, sans y mêler d'autres pratiques. Donc, c'est resté Nam-myoho-renge-kyo sans autre pratique quelle qu'elle soit. Et il dit, c'est Nam-myoho-renge-kyo, contemplation correcte instantanée, pratique de la réalité d'une pensée 3000. Contemplation correcte instantanée, c'est le fait que la vie est instantanée. Donc la contemplation correcte instantanée, c'est le fait de réciter Nam-myoho-renge-kyo devant le Onzon. Et quand il dit que c'est la pratique de la réalité d'une pensée 3000, en fait, ce qui se passe, c'est que récitant Nam-myoho-renge-kyo en tant que grâce à la croyance, eh bien, et grâce au corps physique qui peut produire myoho-renge-kyo en récitant, eh bien, on hérite de la une pensée 3000 du Bouddha par l'action physique. C'est pour cela que face au problème qu'on peut rencontrer, non seulement la pensée ne sert à rien, mais la pensée offusque ce qui est autre que nous. La seule manière de se diriger dans notre existence en essayant de s'éveiller et d'y amener les êtres, c'est de réciter Nam-myoho-renge-kyo, plutôt que de laisser sa pensée être prise par un truc, prise par autre chose, et envoyée ici, envoyée là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Lui aussi? Alors maintenant, grâce à la grande gentillesse et bienveillance de Brigitte, alors c'est celle qui va le lire, voilà.
Son mari,
il est
distancé.
Non. Donc on va terminer en traitant un peu ce passage. Oui, j'attends les appels.
Je l'ai mis dans japonais.
Oui, il va être.
C'est lui, ma petite.
Donc, t'as une jolie fille au bout, pour souper, avec des gens qui sont pas au papier. C'est pas plus chiant.
Tu peux le lire, Brigitte?
Traité sur le sens de la substance, Totai Gishu. Celui qui honnêtement rejette les moyens, uniquement à foi dans le sutra de la foi du Dharma et récite Nam-myoho-renge-kyo, verra les trois voies des mauvaises passions, du karma et de la souffrance transformées en trois vertus de corps du Dharma, sagesse et libération. Les trois visions et les trois vérités apparaîtront en son cœur. Le lieu où il demeurera sera la terre de la lumière toujours sereine. Le Bouddha de la fleur du lotus substantifie de la durée de la vie de la doctrine originelle au triple corps sans artifice, à la fois habitant et habité, corps et territoire, le principal et le support, doté à la fois de la substance et de l'application, se trouve parmi les disciples bienfaiteurs de l'Ichi.
Donc, au début, nous parlions de Buddha Gosa, donc, qui traite de l'anneau de l'effray. Hein, pour indiquer qu'en dans le cycle des vies et des morts, on aura l'expression Rokudo Rinne qui signifie transmigration dans les six voies. Ça, c'est le monde de la souffrance et de l'illusion. Monde dans lequel nous étions avant de rencontrer la loi, bien entendu. Et il est dit que lorsque ce monde particulier qui vous est propre à vous, chacun a son propre monde d'illusion et d'errance, il est dit que lorsque ce monde d'illusion et d'errance prend refuge, Namu, dans le véhicule vrai, ce monde devient tel quel simultanément le monde du Bouddha. Alors il dit, bien sûr, ce principe est sans doute difficile à comprendre sur la base de la logique ordinaire, toutefois il convient d'avoir foi dans les immenses œuvres et vertus de Nammyoho Renge Kyo, qui est la substance et l'aspect inconcevable du monde des phénomènes. Inconcevable parce que personne ne voit l'instantanéité des choses, et personne ne peut voir que la cause et l'effet sont simultanés. Alors, si on prend le texte que vous avez entre les mains, l'individu qui récite Nam-myoho Renge Kyo voit les trois voies des mauvaises passions, des actes et de la souffrance se transformer en trois vertus de corps de dharma, sagesse et libération. Il faut bien comprendre que les mauvaises passions, passion c'est passif, hein, c'est subir une passion. Donc les mauvaises passions de l'individu sont un effet qu'il subit, que les actes, ce qu'on appelle le karma, c'est également un effet qu'il subit, et que la souffrance, c'est ce qui caractérise évidemment le sujet sensible instantané. Donc, il n'est pas décisionnaire des passions qui s'abattent sur lui, même Descartes dit que la passion, c'est subir, souffrir. Hein. Les actes s'imposent, il n'en est pas maître, parce qu'il n'est maître de son corps ni de son esprit. Par contre, la souffrance résultante de tout ceci, il la vit réellement. C'est ce qu'on appelle la souffrance dans le cycle des six voies. Donc, pour interrompre ce cycle où les passions s'imposent, où les actes s'imposent, et où personne n'est responsable de quoi que ce soit, la seule manière, c'est de réciter, comme le dit Nichiren, Nam-myoho Renge Kyo. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le corps des mauvaises passions devient le corps de la loi, le corps des actes devient la sagesse de l'éveil, et la souffrance devient la libération de la souffrance. Autrement dit, ces trois voies deviennent les trois corps du Bouddha. Uniquement si l'on récite Nam-myoho Renge Kyo, bien sûr, au sein des troubles. Et lorsqu'il est dit que le lieu où demeure cet homme ou cette femme est la terre de la lumière toujours sereine, souvent la loi dit que, en fait, c'est le sens de le corps et le territoire sont une pensée 3000. Alors comprenons-nous. L'humain ordinaire considère comme deux choses distinctes son propre corps, qui lui appartient à lui. Je suis beau, je suis intelligent, donc je suis content d'être moi, beau et intelligent. Donc il considère comme deux choses distinctes le corps et ce qui n'est pas le corps. En réalité, comme tout naît dans l'instant, le corps et l'environnement ne sont pas deux, mais un seulement. Chose que l'humain ne peut pas voir. Autrement dit, que le corps et l'environnement sont l'expression, en tant que effet, de la propre une pensée de la personne. Ce qu'il ne peut pas non plus voir, parce qu'il se voit toujours comme un isolé par rapport à un environnement qui est autre que lui, et dont il peut se servir, comme le dira l'abruti Spinoza. En fait, il dit que l'humain étant le sommet de la création, il peut se jeter comme un malade sur tout ce qu'il y a et s'en servir à ses propres fins, parce que c'est Dieu qui a mis ça en place et qui peut servir comme dans un prix unique, et la terre est devenue un grand lieu, un grand supermarché ouvert jour et nuit. Hein, comme la Bible le dit aussi, hein, l'Ancien Testament, prenez tout, tout ce qu'elle avait pour vous, la femme, c'est pas grand chose, les animaux, c'est pas grand chose, tout ce qui est là, je vous ai créé, prenez tout, c'est pour vous. Hein. La base de l'avidité bête, qui maintenant est appelée phénomène de environnementaux, de pollution, oui. Ça vient de la Bible, ça vient de Spinoza et d'autres apôtres comme ça, il faut bien donc voir. Par contre, si on explique aux gens que le corps et l'environnement ne sont pas deux, attention, ça change la donne. On n'est plus dans un supermarché, ouvert jour et nuit. D'accord? Bon. C'est drôle. Donc il dit que l'expression le corps et le territoire, c'est donc en fait l'homme et son environnement qui, lorsqu'on pratique, sont dans une relation de fusion harmonieuse et réalisent les vertus de la félicité, de la permanence, du soi et de la pureté. On dit que quand l'individu pratique, son environnement aussi réalise les quatre vertus de la pureté, du soi, de la permanence et de la félicité. C'est ce qui se produit. En outre, il dit également qu'il existe les expressions rétribution du support et rétribution du principal. Dans la logique bouddhique, les actes entraînent des effets. Il y a deux types d'effets. Des effets directs, donc c'est la rétribution du principal, donc là une pensée, et des effets indirects qui se traduisent par la rétribution du support, c'est-à-dire le support de la pensée momentanée. Qu'est-ce que le support de la pensée momentanée? C'est le corps et l'environnement dans lequel elle se situe. Donc il y a des rétributions des actes indirects, corps et environnement, et direct, c'est là une pensée. Pourquoi? Parce que c'est toujours là une pensée qui est privilégiée parce qu'elle est mobile en principe. Alors, si vous êtes en tant que femme, ça va durer un certain temps. Vous n'allez pas être un coup kangourou, un coup perroquet, et un coup mec avec des moustaches. Hein, vous allez à peu près rester une femme. D'accord? Donc, donc la rétribution du support, c'est pas ce qui est plus important. Apparaître en tant que femme ou en tant qu'homme, c'est pas ce qui est le plus important. Par contre, la pensée qui est dedans est toujours mobile, elle. Là, donc, à l'attribution directe des actes, c'est là une pensée. Alors que le corps et l'environnement, c'est indirect, c'est moins important. Donc, il dit rétribution du support et du principal. Le principal, c'est nous les êtres. Donc, là, une pensée. Il dit le support, c'est l'environnement. Et le corps. Sans environnement, ni notre vie quotidienne, ni nous-mêmes physiquement n'existeraient. Pour cette raison, dit-il, le corps et le territoire coexistent en une importante corrélation. Qu'est-ce que la corrélation importante entre le corps et le territoire? C'est que les deux sont instantanés et qu'ils ne sont pas deux. Jaillissent dans le même instant, simultanément, et le corps et l'environnement dans lequel le corps se situe. Autre point important, c'est ça le présent. Ce jaillissement ininterrompu corps-environnement, qu'on ne voit pas, nous, ça nous semble fixe, et on distingue le corps dans un environnement qui lui est étranger. Or, c'est faux. Dans l'instantanéité des choses, le corps et l'environnement sont un, et non pas deux, et en plus, ils constituent le seul présent, et la pensée en dérive à chaque instant. Comment dire? Le seul moyen, c'est des gens, il y a des gens qui disent, oh, moi, j'ai vu l'instant présent. Mais c'est des conneries. Il n'y a pas de possibilité de vivre l'instant présent avec l'esprit. L'instant présent est seulement physique. On n'a pas le choix. Donc, il dit, sur un loi, lorsque l'on pratique, simultanément, ces phénomènes rejaillissent à la fois sur l'individu et sur l'environnement. C'est donc la réalisation du corps de communication du Bouddha, du corps physique du Bouddha. Ensuite, le territoire et l'individu, qui est dans ce territoire, manifestent en pratiquant la fusion merveilleuse de l'être et de l'environnement. Donc à ce moment-là, c'est le corps de la loi du Bouddha qui apparaît lorsque l'on récite. Et en troisième point, le corps de la sagesse, le corps de rétribution, si vous préférez, le corps de la rétribution réelle, qui est la pensée, la sagesse de l'individu. Il dit que notre esprit existe en dépendance de notre corps. Contrairement à ce que les gens croient, y compris jusqu'à Kant maintenant, ou Sartre, les gens sont sûrs que s'ils veulent se lever, ils se lèvent et que l'esprit dirige le corps parce qu'on est beau et divin. En réalité, non. La pensée est en dépendance du corps. Mais grâce à la croyance qui impose au corps de se plier, de réciter Namu Myo Renge Kyo, à ce moment-là, modifiant le corps grâce à la croyance et la pratique, le corps fait surgir des pensées qui sont beaucoup plus riches dans l'esprit de la personne, et c'est ce qu'on appelle l'éveil par les facteurs. Et à ce moment-là, le corps de rétribution du Bouddha apparaît en nous. Comme c'est le corps le prioritaire et qu'il est le seul présent dans son environnement et qu'ils ne sont pas deux, c'est grâce à la croyance que l'on impose au corps de faire surgir des idées, des pensées qui nous illuminent en termes de qualité. Donc je terminerai là-dessus. Il dit, les œuvres et vertus de ce corps de rétribution sans artifice éclairent l'intégralité des mondes des phénomènes. En somme, cette phrase, dans toute la phrase, signifie que l'aspect de notre foi fusionnant avec le Gonzon est la manifestation du triple corps sans artifice du Bouddha. Autrement dit, que c'était Namyo Rengekyo, c'est faire apparaître le Bouddha totalement en nous-mêmes, et on entraîne tout ce qui n'est pas nous avec, tout ce qui nous semble ne pas être nous avec. C'est le propre de la pratique matin et soir. Donc, à partir de mardi, qu'on se trouve au Japon, reprendre connaissance envers le Daigonzon que Nichiren a laissé grâce à sa bienveillance, parce que, comprenez bien, il vous est impossible, il vous sera toujours impossible de transmettre ce que vous ressentez à quelqu'un, fût-il votre ami le plus intime. Il n'y a pas de possibilité de prendre ce que vous êtes et de le donner à quelqu'un pour qu'il sache ce que vous ressentez. C'est impossible. Seule la bienveillance du Bouddha est tellement grande qu'il a pu prendre ce qu'il ressent et le formuler sous une forme que les individus peuvent prendre aussi. Cette forme, c'est Namyoho Rengekyo. Et c'est la seule fois où l'intériorité d'un être, sa qualité, son état, peut être transmise vers un nom qui est la substance. Pour tout ce qui est autre que cette action du Bouddha, jamais vous ne communiquerez quoi que ce soit à quiconque. Impossible, c'est étanche. Bien sûr, bien sûr. Communiquer son état. Communiquant son état, vous pouvez le prendre, Namyo Rengekyo, le réciter, et à ce moment-là, les vertus du Bouddha apparaissent en vous naturellement. Quel que soit l'âge, le sexe, ou quoi que ce soit. Il n'a pas pu communiquer, bien sûr.
Comme
Jacques Amouni atteint l'éveil,
il voyait la même chose.
Il ne peut pas transmettre, parce que ça n'existe pas. Phonétiquement, ça n'a pas d'existence. Donc, on ne peut pas donner.
Il n'a pas eu, en fait.
Interdiction phonétique.
Il n'a pas eu le Japon, à l'époque de la Chine, il faut que ça soit possible de.
Voilà. C'est pour ça que Nietzsche Shonin en Chine, mais en tant que bon Dieu en termes chinois, arrête tout, attention. Pas du tout, c'est pas ça. Il faut prendre la phonétique japonaise sur les caractères chinois.
Oui, la phonétique chinoise.
Mais prononcer la chinoise.
À la chinoise.
Les caractères pour eux.
À celle qui disait, ça n'a rien à voir. Enfin, on a mieux réussi.
Pas la même
chose. Pas du tout mieux réussi. C'est mis à la fin.
Voilà, voilà. Tiantai disait les caractères miao. Miao, pas lien, yitsin, parce qu'il était chinois chez lui, avec ses caractères à lui, donc il disait comme sa langue. Miao, pas lien, yitsin. Alors qu'en réalité, c'est quand Nichiren, lisant les mêmes caractères à la mode japonaise en tant que Myoholang Getyo, tout d'un coup, s'éveille au fait que c'est ça l'éveil.
C'est comme ça qu'il a révélation, qui est le plus
tard. Original, s'il révèle l'origine. Bien sûr. Bien sûr. Et ça montre aussi que Shakyamuni en Inde, avec la culture indienne, les sutras que ça pendant 2000 ans. Les efforts des moines japonais, chinois, Ziyi et autres, sur cela. L'écriture chinoise qui traduit, la Kumarajiva qui traduit Saddharma Pundarika Sutra en Miao Palien Yitsin. La lecture japonaise après qui lit Miao Rengekyo, c'est le même caractère que Ziyi pouvait pas lire autrement que Miao Palien Yitsin. Donc il faut pouvoir, faut bien comprendre que la convergence des trois cultures indiennes, chinoises et japonaises pour faire apparaître au XIIIe siècle Myo Rengekyo, est uniquement l'expression de la bienveillance du Bouddha originel. Et la nôtre. Et la nôtre, parce que nous sommes dans un temps où nous sommes en France et nous pouvons réciter, faire apparaître l'éveil en nous et le diffuser à autrui. Donc en cela, de manière qu'il y a une convergence des trois pays pour faire apparaître Myo Rengekyo au XIIIe siècle, il y a une convergence de situation aussi maintenant entre nous et le Bouddha originel, et nous sommes ses disciples. Mesdames et messieurs, à plus.
En fait, le fameux,
c'est clair, c'est ça, ouais, c'est clair.
Hein. La façon de pratiquer, c'est l'expression de vous avez allé en passer.
De notre bienveillance, c'est celle du Bouddha originel, voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Et t'avais dit que c'est ça, le caractère vertical.
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
Donc, la réduire à caractère.
Bien sûr, bien sûr. Parce que l'humain est vertical. Donc, la loi est verticale.
Là, on pleure, mais on voit qu'il faut plus que ça.
Bon, c'est bon, ça a été pas de suicide en cours. Mais là, c'est bon, alors on arrête.
Non, c'est pas de suicide. Bon,
merci d'avoir
assisté. Ah, bah non, ça ne sera pas ça, ma conduite.
C'est vrai.
Sans ça, je jette.
Ah, je voulais terminer avec une seule chose toute petite. À propos du texte que vous avez entre les mains. Nichiren dit, ainsi pourrez-vous atteindre l'illumination finale sans difficulté, et vous connaîtrez la relation entre l'autoperfection et l'illumination des êtres. Ce que vous avez en main, le texte là. Il dit ainsi, vous pourrez atteindre l'éveil sans difficulté, et vous connaîtrez la relation entre l'autoperfection et l'illumination des autres. Pourquoi ? Parce que l'autoperfection de soi entraîne l'illumination des autres. Mmh. Ou si vous préférez que l'illumination des autres vous est importante parce que vous ne pouvez atteindre l'éveil sans entraîner avec vous les autres. Donc l'égoïsme le plus élevé dans la pratique de Bodhisattva, c'est de faire tous les efforts pour que autrui s'éveille, parce que autrui c'est lui. Tel est l'égoïsme poussé à son élévation la plus grande dans l'enseignement du Bouddha originel.
Il n'y a pas de différence entre les deux.
Il n'y a pas de différence. Mesdames et messieurs, à plus.
Bonne
bon, c'est beau. Ça va, ça a été
oui.